spectaculaire commence aujourd'hui. Bonjour, émission numéro 154e, Christophe Rollin au micro. Nous sommes à la fin du générique, il est 14h05, mon Dieu, on a déjà pris du retard en ce mercredi 24 janvier 2018. Gérald Edan est présent, il y a aussi Louise Vigneault. À double titre aujourd'hui, présente, les micros sont coupés, personne ne parle pour l'instant, ce n'est que moi, promis, je ne fais que parler quelques instants, c'est ensuite les Rolling Stones qui vont parler. Louise Vigneault est ici à double titre pour la pièce qu'elle met en scène, Le Misanthrope. C'est bien simple, auditeur, ça va être pour un tel paquet de dates que je ne sais même pas quand ça va se terminer. C'est pour la fin février, je crois qu'il y a, 4 semaines de dates, c'est absolument prodigieux. Louise va le dire dans quelques instants, elle est également là pour sa direction, enfin du moins la direction, le poste qu'elle occupe au Théâtre des Clochards Célestes. Elle va en parler pendant toute cette heure, jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. Nous avons bu un excellent café au Café Tasse Libre, et c'est une excellente chose, comme tous les mercredis, comme ça on va bien commencer. Commençons également parfaitement avec un super titre, c'est Sympathy for the Devil, pour introduire cette émission. Les Rolling Stones qui vont donc chanter comme d'habitude, comme ça, c'est très bien. 14h05, 14h06, je redis encore une fois, nous écoutons ce titre et puis nous continuons avec Les Misanthropes, une pièce de 1666. C'est un chiffre important, je crois, Gérald. Et vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon ou bien radiocanu.org. Et cela pourrait continuer encore pendant, je ne sais plus, 3 minutes à peu près. Bonjour Louise.
Bonjour.
Salut Gérald.
Bonjour.
Donc, émission numéro 154, je crois, avec Louise Vigneault. Vous êtes ici en tant que metteur, metteuse.
Metteur en scène, avec un E.
Metteur en scène, oui, souvent je dis.
De la pièce du Misanthrope de Molière, 1666. Mais vous êtes aussi ici pour une autre raison. Vous êtes à la tête des Clochards Célestes. Heureux anniversaire. Ça fait un an, c'est ça?
Presque, oui. Merci. En fait, vraiment, c'était à partir de septembre officiellement. Mais en effet, c'est à partir de février que j'ai commencé à travailler pour préparer la saison.
Et la nomination, c'était...
Ouais, janvier, c'est ça.
C'était en janvier, je crois.
Oui, ouais, officiellement, oui.
Louise, vous avez parfaitement commencé, je vous en prie, continuez. Donc, je bredouille moi aussi, Gérald. En fait, on va laisser Louise parler jusqu'à la fin, jusqu'à 15h. Voilà, il vous reste 50 minutes, vous indiquerez quand vous souhaiterez faire des pauses musicales et puis on les fera. Continuez donc comme ça, c'est parfait. Présentez-vous un peu, vous n'êtes pas tout à fait lyonnaise, mais maintenant vous l'êtes, vous le resterez.
Pour l'instant, je le suis en tout cas, oui. Ça fait 6 ans que je suis à Lyon, je suis venue à Lyon pour l'ENSAT, où j'ai fait des études de mise en scène. Voilà, avant j'étais à Paris. Où j'ai fait un lycée qui a été très important pour moi, puisque c'était le lycée Louis le Grand, que c'est là où Jean-Pierre Vincent et Patrice Hiroux avaient commencé. Donc c'était important pour moi de suivre ces grands maîtres, voilà, au moins dans l'idée. Et puis où j'ai commencé à faire du théâtre surtout, parce qu'il y avait un club théâtre où il y avait pas de professeur et on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc j'ai pu monter des pièces et j'ai commencé comme ça dès la seconde.
Vous n'avez pas commencé avant le théâtre? Pas au collège ou
non, 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 j'ai jamais pris de cours en fait avant. Par contre, si, la toute petite enfance, bêtement l'été avec les cousins. Voilà
l'anecdote. Une écriture originale ou bien une adaptation?
Non, c'est venu parce que en maternelle, on avait travaillé sur Christophe Colomb et on était fan de Christophe Colomb et les parents pour nous occuper l'été parce qu'on était pas mal de cousins du même âge, donc insupportables, nous ont fait faire un spectacle sur Christophe Colomb avec des caravelles. On avait des bateaux peints sur des cartons. C'était génial. Donc on s'est éclaté. Et puis après, moi j'ai mis mes cousins en scène tous les étés le garage. Voilà, pour on a fait la Révolution française, des adaptations de contes de Perrault, des séries, des policiers. Enfin voilà, et c'était vraiment un... Je pense que c'est né là. Après, il y avait ma grand-mère.
Mise en scène, vous dites pas de jeu, pas d'interprétation.
Si, on jouait aussi, on faisait tout. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà le goût. Ouais.
Vous avez déjà le goût de mettre en scène les autres.
Raconter des histoires, je dirais plus.
Avec cette phrase de Brecht, c'est ça, je crois. Qu'est-ce que c'est que le théâtre définit Brecht? C'est une
préface. C'est un homme qui raconte leur vie à d'autres hommes.
Debout
sur une pierre, oui.
C'est le premier qui a commencé ça.
Mais c'est ça, c'est vraiment raconter des histoires. Puis j'avais une grand-mère professeure de lettres. Qui était extraordinaire et qui pensait qu'on apprenait le monde par le théâtre et par les scènes et donc qui nous emmenait au théâtre voir les classiques, voir la langue, voir tout ça. Et je crois que ça a été très 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 important, cette notion-là de service public par le théâtre, d'apprentissage par le théâtre, de découverte du monde aussi par le théâtre.
On vous lisait beaucoup d'histoires quand vous étiez petite aussi, peut-être? Non.
Oui.
Non, mais quelle chance.
C'est important de raconter des histoires.
Et vos parents, par contre, n'étaient pas
c'est
du tout dans le théâtre ou autre?
Non.
Culturel.
Enfin, si. Enfin, non. Non, ils étaient architectes. Ils sont architectes. Donc, c'est pas. Ils sont pas dans le théâtre, à proprement parler, mais.
À moins qu'on considère l'architecture comme une théâtralisation de l'espace.
Je crois profondément. Vraiment. Ah ouais, puis, ouais, complètement même.
C'est que ça, d'ailleurs.
Ah bah oui, c'est que ça, c'est que du dessin, hein, c'est qu'un rapport. Oui.
Mais attention, ce qui marche bien, ce qui marche mieux, enfin, je sais pas, en termes sociologiques ou même psychologiques, physiologiques, c'est le dialogue ou la narration? Vous dites il faut raconter des histoires, mais en ce cas, c'est pas forcément le théâtre, raconter des histoires. Si, c'est
Non, après, ce qui est intéressant, c'est qu'au théâtre, il y a une confrontation entre des hommes.
Oui, plusieurs personnes.
Voilà, plusieurs personnes. Il y a les personnes sur scène, il y a les personnes dans la salle, les personnes dans la salle qui voient des miroirs.
Un one-man show, ou bien conteur, ou bien je ne sais.
Ça marche aussi.
Ça marche aussi.
Oui, ça.
Je crois que ça. Oui, c'est la même chose.
Ah, d'accord. Donc, c'est pas forcément le théâtre dans le sens.
Non, je crois que c'est vraiment raconter. Oui, c'est au sens large. Après, chacun le fait comme il peut. Et comme il veut, mais je crois que c'est ça, c'est au sens large.
Et un bon comédien, même s'il est tout seul, ou un bon conteur, arrive à incarner des personnages qui ne sont pas là.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Il y a toujours beaucoup de monde sur une scène, même quand il n'y a qu'une seule personne physiquement.
Oui. Bah d'ailleurs, au Théâtre des Clochards Célestes, il y aura ça à la fin de l'année.
On en reparlera. Ouais. Y a-t-il un bord de scène pour... Enfin, je ne sais plus quel est le terme.
Je ne suis pas au courant, bord de scène, ce n'est pas indiqué sur le programme.
Il me semblait que pour le Misanthrope, il y avait quelque chose qui était organisé.
Il y a une rencontre philosophique.
Ah oui, il y a différentes rencontres.
J'ai en tête le 8, le jeudi 8, et je crois qu'il y a quelque chose le jeudi 8. Ou alors c'est une conférence ou c'est.
Je sais que le 7.
Si je peux vous dire maintenant tout de suite, si vous voulez, ça sera fait.
Annonce pour le Misanthrope.
Tu as oublié le programme, Christophe. Donc le Misanthrope, il paraît qu'il y a un sous-titre que vous avez sabré,
L'atrabilaire.
Le jaloux atrabilaire ? Ou l'atrabilaire ?
L'atrabilaire amoureux.
L'atrabilaire amoureux. Donc de Molière, 1666. Hein. On en reparlera de
non, mais attends,
contexte.
Moi, j'évoque ça seulement pour dire une rencontre.
1h50 jusqu'au 15 février, il y aura une rencontre. Donc, après le spectacle, avec l'équipe artistique, le mercredi 7 février à 18h30.
Alors, c'est avant le spectacle. C'est ça ? Oui.
Alors, ce qui est très bizarre, c'est que normalement, le 7 février, spectacle. Oui, c'est après. Bah, et avant, il y a une rencontre, un débat philosophique avec un philosophe, enfin, avec Guillaume Caron, qui est dramaturge au TNP et qui fait des rencontres théâtre philosophie.
Vous serez présente vous-même ? Oui.
Oui, c'est une discussion entre nous deux sur la question de la représentation.
Là, ça sera 18h30, le même jour, théâtre et philosophie, faire semblant, 3, cycle 3. Par Guillaume Caron, salle George Wilson. Et le jeudi 15 février, il y aura aussi, oh là là que c'est beau, une disputatio après le spectacle.
Disputatio, oui.
Tatio,
oui,
tatio, oui.
La prononciation latine, moi je ne la connais pas.
Mais
votre intervention ce mercredi 7, elle est déjà écrite ? C'est quelque chose de parler, d'oral ? Ce sera un spectacle ? C'est du théâtre que vous allez faire avec Guillaume Caron ?
Non, c'est pas du théâtre. C'est une rencontre en direct, en fait. Je sais que lui est très intéressé par la question de la représentation au théâtre, des faux semblants, etc. Donc évidemment, le misanthrope, ça colle pas mal. Et donc voilà, c'est plus une. Comment ouvrir le théâtre à des débats philosophiques et comment justement venant raconter des histoires, finalement on pose des questions aux hommes et on les met en face de leurs propres interrogations sur leur manière d'être dans le monde et comment on peut à partir d'une pièce de théâtre se poser des questions sur le monde. Je crois que c'est ça, c'est essayer de faire un pont entre le théâtre et la philosophie.
Est-ce que cette conception, ce dont vous parlez, votre conception du théâtre aurait-elle évolué depuis vos petites années, ou peut-être plus précisément depuis la seconde ? C'est vraiment en seconde que vous avez commencé à prendre une option, c'est ça ? Ou non, vous avez toujours eu cette
non,
même
c'était
perception ?
Vraiment toujours en théâtre universitaire, libre. Je dirais, en club libre, ouais, c'est ça. Vraiment, j'ai pas pris de cours avant très longtemps, avant le Master 2, pour justement pouvoir passer l'ENSAT, et c'est vraiment avec l'ENSAT que j'ai vraiment fait une école. Oui, évidemment que ça évolue, ça change, on grandit surtout, donc... ça devient même insupportable parce qu'on réfléchit beaucoup plus et c'est plus dur d'aller au théâtre. Après, bizarrement, je crois qu'au fond, ça n'a pas tant changé que ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours la même question, en fait. En effet, d'aller raconter une histoire et que cette histoire remue, que cette histoire perturbe, que cette histoire pose des questions. Ne pas monter une pièce juste pour monter une pièce, et puis voilà, mais monter une pièce parce que ça fait sens, parce que ça vient raconter quelque chose, parce que ça nous perturbe, parce qu'il y a quelque chose qui émeut profondément dans ces textes-là et qu'on a envie de partager, qu'on a envie d'interroger, qu'on a envie de questionner, partager avec une salle. Je crois que depuis toujours, moi j'aime bêtement, mais c'est pas si bête que ça, je crois, la confrontation avec le public, et que finalement au théâtre c'est quand même ça qui compte, c'est-à-dire qu'on fait pas du théâtre tout seul, on fait du théâtre pour des gens, et je crois que cette question-là, elle m'anime depuis toujours, et plus j'avance, plus au fond elle me perturbe et elle me questionne.
Oui, on vous laisse parler.
C'est le cahier des charges de la compagnie La Résolue que vous avez fondée, très beau nom. Il vient d'où ce nom, La Résolue ?
Il vient de plusieurs choses. La première, c'est parce qu'évidemment, c'est très très difficile de trouver un nom de compagnie. Oui. Et je cherchais un adjectif, voilà, en substantivé, pour définir un peu, nous, notre ambition et la manière dont, justement, on voulait faire du théâtre de façon déterminée et ne pas lâcher. Et donc, être résolu, de manière générale, à défendre le théâtre et à faire du théâtre et à se battre pour ça. Après, c'est aussi un bateau. C'est un navire qui a été construit sous Louis XIV, un navire marchand, et qui a traversé les siècles jusqu'au XXe siècle. Bon, en évoluant
négrier,
évidemment le nom. Non, pas un négrier, justement.
Je vous la rassure.
Et qui est passé de voilà. Et moi, je veux pas non plus que ce soit un bateau militaire. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'était le nom d'un bateau, et je trouvais ça assez beau que pour une troupe de théâtre, ce soit le nom d'un bateau et que ça soit aussi le nom d'une embarcation et ce rapport-là.
Pas forcément une galère.
Non, voilà.
Non,
à la navigation. En fait, c'est-à-dire que mine de rien, dans les théâtres, il y a des glissements de vocabulaire, puisque les gens qui étaient sur les bateaux et qui avaient le choix entre, quand ils avaient fait une bêtise, ils avaient le choix entre la pendaison ou aller travailler dans les théâtres. Et donc ils allaient travailler dans les théâtres. Donc ils ont amené beaucoup de vocabulaire marin dans les théâtres. Et des fois, sur un plateau, on a l'impression d'être sur un bateau. Mmh. Voilà. Et donc il y avait aussi ce parallèle-là. Et voilà. C'était un peu.
C'est bien trouvé, du coup.
Je crois.
Oui, mais alors attention, là, tu parlais de galère, Gérald, il ne faudrait pas, puisqu'il est question de raconter des histoires, il ne faudrait pas mener les gens en bateau. Enfin non, c'est totalement bête. Moi, je pensais plutôt, pourquoi le féminin ? Le féminin, c'est la résolue. Alors, je pensais que c'était la compagnie, en fait. Non, le bateau, c'était...
Le bateau s'appelait la résolue.
Un bateau, c'est féminin.
Une régate ?
Oui, très souvent. Forcément. Ouais, les noms sont féminins.
Une caravelle ou...
Ouais. C'est féminin. Et puis après, c'était aussi la compagnie, la résolue. Et je voulais que, en fait, la compagnie... C'est vraiment le nom, c'est Compagnie la Résolue, c'est pas juste la Résolue. Je voulais que dans le nom, il y ait Compagnie la Résolue pour que ça soit aussi une entité, un groupe en fait, et la revendication de ce groupe de théâtre. Voilà.
Alors vous y parlez dans le petit texte qui est sur le programme, hein. J'invite les auditeurs à se procurer, à lire avant le spectacle.
Ah ben c'est en salle, ou alors voilà. Non, il est téléchargeable sur internet, ça c'est bien, c'est pratique.
Donc il y a l'idée d'engagement, de vie, de combat, de révolte, de désir fou. Le théâtre doit ouvrir des brèches, inquiéter, interroger... etc. Et il convoque aussi l'intranquillité. Vous avez emprunté ce concept à un auteur en particulier.
C'est-à-dire qu'en fait, oui, je voulais... c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à la fois, on est tranquille dans son siège, et en même temps, ce qui est toujours beau, c'est quand d'un seul coup, il y a une phrase, une chose qui va remettre tout en question, et qui fait que même si on va pas se leurrer non plus, on va pas nécessairement sortir faire la révolution après une pièce de théâtre, au moins il y aura peut-être une idée qui va nous perturber, germer et créer quelque chose qui fait que on sera obligé d'aller lire, on sera obligé d'aller réfléchir, on sera obligé de se poser des questions, on pourra pas être tranquille. Voilà.
Vous seriez d'accord avec Hitchcock qui définissait le cinéma comme des spectateurs dans un fauteuil, hein. Des spectateurs dans des fauteuils, disait le cinéma, c'est ça. C'est un peu valable pour votre théâtre.
Oui, c'est ça, ça reste le spectateur avant tout. Et d'ailleurs, il y a une très belle lettre de Strehler à un jeune metteur en scène que j'aime beaucoup, qui lui dit, tu verras, le théâtre se fait le jour de la première, c'est-à-dire au moment où toi, tu ne peux plus être, en fait. Et c'est ça. Je crois que le théâtre se fait à partir du moment où il y a le public. Et qu'avant, on prépare, mais on prépare l'arrivée du public. Mmh. Et que ça qui compte.
Y a-t-il une phrase peut-être à extraire, Gérald, sur la couverture ? Est-ce que ça peut faire réfléchir ? Non, je t'en prie, la couverture.
Elle n'estimait rien qu'estimait tout le monde.
Voilà, c'est ça. Tu l'as trouvé, Gérald, tout en bas. C'est.
Ça résume un petit peu.
Acte 2, je crois. Hein.
Ça résume bien la pièce. D'ailleurs.
C'est le premier acte, première scène.
C'est
Alceste.
C'est un peu ce qui arrive à Célimène, c'est son destin.
En quelque sorte. Bah oui, c'est ce qu'elle revendique aussi, sans doute, ouais.
Par goût aussi, pas par.
Oui, je crois que. Enfin. En tout cas, moi, de ce que je sens de Misanthrope, c'est que Alceste et Célimène ont le même point de vue jusqu'au boutiste et libre.
Et du coup, ils peuvent pas se rapprocher à cause de leur point commun. Ils se ressemblent trop, on va dire.
En quelque sorte, oui. Ou ils sont trop libres chacun pour pouvoir s'attacher à un autre.
Nous entamons la deuxième partie de l'émission avec donc plus précisément cette pièce. Tu as les dates, Gérald, qui a commencé la semaine dernière.
Les horaires, ça doit être 20h30 et c'est jusqu'au jeudi 15 février.
Le 15 février.
C'est à 16h le dimanche.
1h50 qui passe très très vite parce que c'est tellement rythmé, ça vire dans
tous les jours.
Sens.
Non, il y a relâche. Il y a relâche, je crois,
le lundi.
Relâche le lundi, tous les jours. Ça fait combien de dates ? C'est
on a 24. 24 dates en tout. Et puis, on a deux représentations scolaires pour des lycées.
C'est assez soufflant. Donc voilà,
c'est sport.
Ne commençons pas tout de suite cette deuxième partie, puisqu'il faudra également aussi. Ce sera demandé, Louise, vous devrez parler des clochards célestes. Il faudra évoquer un peu cette programmation que vous avez souhaité. Si vous avez quand même pu l'établir un peu à partir de février dernier pour cette saison 17-18.
Ah oui,
Elisabeth Saint-Blancas, c'est terminé. Enfin, disons, c'est terminé.
Elle joue cette année au théâtre des clochards célestes, avec Série Noire, là, en février.
Série Noire, c'est ça, de Alain Corneau, adaptation.
D'après, oui. Par Benjamin Krodinger et Benoît Payon.
Un Gérald, nous l'avons reçu, je crois. Gérald Tissot-Bonvoisin, il me semble. On l'a reçu.
Robert Tissot,
je confonds tous les deux.
Bien sûr, mais j'étais pas là. Mais je connais.
Tu n'étais pas là, parce qu'il y aurait eu trop de Gérald sur le plateau. Il y a un Gérald également avec un E dans le texte qui est brocardé de manière assez terrible. Bref, écoutons.
Petite pause avant de rentrer dans le cœur de la pièce.
Normalement, moi, j'avais tout prévu avec. Auditeur, vous avez droit à tout. C'est d'ailleurs très maladroit, Gérald. Il aurait fallu me tendre ça en te levant peut-être. Mais bref, écoutons, pas Bobby Lapointe. Moi, j'aurais bien aimé parce que j'ai écouté ça en préparant l'émission. Non, mais là c'est moins prêt. J'ai préparé Juliette Gréco, je crois, ou je ne sais plus.
Bon, non.
Mais ça aurait été très bien, la Misanthrope. C'est très rigolo. Il mange tous les airs. C'est très amusant. Vous l'aviez écouté aussi plusieurs fois ou
c'est... Oui, on s'est amusé avec.
on le mettra sur le blog parce qu'il évoque Célimène. Donc nous faisons une courte pause. Tu la présentes, Gérald, ou ça va être une surprise?
Non, tout le monde la connaît.
Tout le monde connaît.
La plus belle chanson d'amour contemporaine, si on peut dire.
Bon.
Un peu misanthrope, certes.
Je vais indiquer l'heure comme ça, 14h25. Vous êtes bien sur Spectaculaire, 102.2 de la bande FM, radiocanu.org, si vous nous écoutez sur Internet.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimés, les boulouches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus au stade creuse, mais la dent conveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus, stade creuse, mais la dent corveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Vous êtes bien sur Radio Canu Spectaculaire 102.2 ou sur Internet. Nous recevons Louise Vignoux pour le Misanthrope et voilà, j'ai choisi quand même Brigitte Fontaine Pipeau parce que ça allait bien, le côté nihiliste, misanthrope et iconoclaste sur l'amour. Vous avez écouté la version solo qui date de l'album Kekeland, mais il y a aussi une version duo avec M sur un autre album, L'un n'empêche pas l'autre, de 2011, plus récent. Voilà.
Donc, cette pièce a commencé il y a déjà quelques jours de cela, je crois que c'était la semaine dernière, il me semble.
Oui, vendredi dernier. Oui.
Voilà, vendredi, donc nous sommes en deuxième semaine. Vous êtes Louise Vignoux, vous n'êtes pas sur scène, vous assurez, vous faites donc je préfère ce terme-là, peut-être vous faites la mise en scène.
Oui.
Je vous en prie, comment peut-être présenter cette pièce pour ce qui est éventuellement de l'intrigue, ou alors votre note d'intention ou...
Écoutez, ça.
Je lance même pas de questions. Voilà. Louise Vignoux, qu'est-ce que c'est que le misanthrope?
Un texte magnifique.
C'est large. Oui, ça commence comme ça, je crois. C'est une des plus grandes pièces de Molière, qui est très surprenante parce que absolument magnifique quand on la lit. Et puis en fait, je crois qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et nous, c'est vrai qu'on a essayé de faire un très gros travail de lecture pour comprendre vraiment le fond de la pièce. Et plus on l'avançait dans la lecture, plus on se rendait compte du côté subversif de cette pièce qui était inconnue jusqu'ici. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais jamais entendue comme ça. Et en fait, on a commencé à découvrir que tous les personnages sont en procès. Ils ont tous des procès et donc ils doivent tous... Ils dépendent tous des uns des autres pour pouvoir réussir à se sauver ou à gagner leur procès. À partir de là, on comprend que tout est relation de pouvoir et qu'il n'y a aucune autre forme de relation possible dans cette société et que toute forme de relation, voilà, est un rapport de pouvoir ou un forme de représentation, de rapport de représentation vis-à-vis de ce pouvoir. Voilà. Donc à partir ça a été la première chose très importante à comprendre par rapport à cette pièce. Et puis la deuxième, c'est que Alceste ne veut pas partir au départ. C'est-à-dire que souvent, on s'imagine que le misanthrope est misanthrope dès le début de la pièce, qui veut tout de suite partir dans le désert et qu'il est tout de suite mort foncé. Et que, voilà. Et en fait, voilà, c'est l'histoire d'une expérience. Il le devient. Au début, c'est un homme révolté. Un homme révolté contre ce temps, contre les mœurs du temps, comme elle dit, pas contre l'homme en général, mais contre les mœurs du temps, contre ce qu'elle provoque chez l'homme et sur ce que ça induit, ce que ça implique, ce que ça...
Les usages de la cour, surtout.
Les usages de la cour,
voilà. Parce que Molière a sous les yeux, il est parti de ça pour écrire
ça. Ils sont dans l'usage de la cour, voilà, c'est ça.
Mais ça fait déjà quelques temps qu'il est comme ça, puisque le fameux acte 5 qui est terrible, qui est glaçant, ce n'est pas la dernière scène, l'avant-dernière scène, ou peut-être
la première de l'acte 5.
Éventuellement, avec les... Non, c'est pas toute la première, quand les marquis arrivent.
Ah oui.
Quand les deux marquis font la lecture des billets, donc l'homme au ruban vert, et on comprend, parce que moi, c'est ça qui me semble
un peu
difficile.
C'est quelqu'un de révolté de manière générale.
On le sait sur un moment, mais voilà, ça fait déjà quelques temps.
Il est révolté, mais ce qui est très intéressant,
c'est ça.
Il est dans ses chagrins bourrus, il est révolté, il est connu pour être tel, mais la décision du départ, ce n'est pas de partir, c'est de rompre en visière avec le genre humain. Et l'énorme contresens qu'on fait, c'est que rompre en visière, ça ne veut pas dire rompre et partir, ça veut dire attaquer. Donc, le début de la pièce, je veux rompre en visière avec le genre humain, c'est je veux attaquer le genre humain pour le bouger.
Même, le faire changer.
Voilà, le faire changer, exactement. Même Célimène, il dit, mon dessein il veut purger son âme. Donc c'est bien, c'est pas l'idée de partir avec elle ou quoi que ce soit, c'est vraiment purger, donc être actif sur les autres. Il essaye avec Oronte. Ça échoue et à partir de là, en fait, à partir de cette scène qui est fondamentale dans la pièce,
c'est capital puisque Oronte est un ennemi,
comme il dit, un ami de ma sorte n'est pas pour être rejeté. Donc à partir de là, de cet endroit-là de pouvoir, Alceste n'aurait pas dû s'y frotter et il va être arrêté et ensuite il est poursuivi et il y a des arrestations, etc. Et puis finalement, il va être obligé de partir en exil. Et là, c'est un écœurement encore plus grand que celui qu'il avait au début. Et l'exil est nécessaire et forcé à la fin. Donc, c'est ce parcours-là qu'on a voulu raconter. Et cette, la manière dont un pouvoir s'exprime et empêche les gens de penser comme ils veulent penser.
Et si on transportait ça à toutes les époques, et en termes philosophiques, ce serait un peu le combat que gagnent les sophistes contre l'amoureux de la vérité vraie, quoi, en termes philosophiques.
Oui, de manière générale, il y a toutes ces questions-là.
C'est un peu ça,
c'est
le sophistique, la rhétorique contre... Parce que Alceste est un amoureux de la vérité, finalement.
Complètement, oui.
Tout ce que ça comporte de danger et justement de risque.
C'est ça, parce que même quand lui dit la vérité, est-ce qu'on est vraiment là-dedans? C'est ça qui est très compliqué aussi.
Donc c'est un jeu de miroir permanent.
Tout le temps.
Baroque.
Tout le temps.
C'est une pièce baroque finalement.
Le personnage de Philinte est vraiment, vraiment difficile parce que. Il me semble un peu comme, je crois que c'est le beau-frère d'Orgon dans Tartuffe, Cléante, c'est bien ça. Oui. Une sorte de personnage un peu sage qui semble être bon,
Ce qui est intéressant, c'est pas facile du tout. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est que on a cette vision romantique d'Alceste, donc Alceste gagne, alors que Philinte est un peu celui derrière qui est un peu un peu mou. C'est pas vrai.
Non.
C'est une autre proposition philosophique. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est face à des gens, des visions du monde différentes et surtout des manière d'être dans ce monde qui est impossible à vivre pour tous.
Personne ne gagne, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais des gens malheureux finalement tous.
C'est ça, et même Philinte le dit bien, les hommes sont affreux, il est d'accord, je tombe d'accord de tout avec vous, mais il faut bien qu'on arrive à vivre, parce que sinon on est foutus. Et la philosophie sert à vivre dans ce monde et à essayer d'être vertueux comme on peut, alors que voilà. Et Philinte, en quelque sorte, on pourrait... Souvent, on se dit que c'est, dans tout ce qu'on a pu lire et tout ça, pour Molière, il se rapprochait un peu de la philosophie de Montaigne, en fait. Mm-hmm. Cette acceptation du monde tel qu'il est. Mm-hmm.
Et la mesure.
Voilà, la mesure. Éloge, exactement. Voilà.
Alors, vous dites beaucoup on, mais est-ce que ça a été vraiment à ce point un travail collaboratif? Ou alors, est-ce que quand vous faites donc cette direction d'acteur, mise en scène, est-ce que Louise Vigneault, vous êtes un peu tyrannique, je dis tout de suite, je pense à ce terme-là. Parce que voilà, je voulais les nommer, parce que très concrètement, tout ce que vous dites, tout ce que nous disons, ces propos sur scène, comment s'incarnent-ils avec donc Olivier Borle notamment qui fait Oronte, avec Sophie Angèle qui incarne Célimène, Michael Pinelli, Gérald, c'est ce brillant Alceste, et puis Clément Morinière
en Philinte.
Ce timbre pour Philinte, ça fonctionne comment? C'était donc vraiment, je dis, collaboratif.
Il y en a d'autres aussi. Hein.
Oui, non,
entendu, mais ce sont...
Ouais, mais c'est parce que...
Comme on l'a pas vu beaucoup.
Non, mais nous avons nommé à l'instant...
Angèle.
Nous avons nommé Célimène, Alceste, Oronte et Philinte. C'est ceux qui ont
nommé. Oui, oui, et puis il y a les autres, et puis il y a aussi surtout mon équipe de collaborateurs.
Pauline Noblecourt peut-être aussi.
Voilà, Pauline Noblecourt en dramaturgie. Irène Vigneault à la scénographie, Lola Etiève au son, Luc Michel à la lumière.
Hugo Roux, on l'a présenté hier soir, oui.
Voilà,
Cindy Lombardi au costume.
Cindy Lombardi au costume.
Mais donc vraiment, oui, c'est ça. C'est un travail collectif. Les lectures ont été faites par tout le monde.
Oui, on travaille tous ensemble et c'est vrai qu'on a appris à travailler ensemble. Après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que la mise en scène, c'est une manière de rassembler une équipe. Moi, j'aime lire des textes aussi, donc c'est dans ce rapport aussi de lecture d'un texte. Je propose un texte, je propose une lecture, une direction. Je suis garante du fait qu'on arrive tous à Naples en même temps. Et puis après on travaille ensemble, on se nourrit ensemble et j'aime laisser la place à chacun pour...
La distribution est déjà assurée au début?
Je fais la distribution, mais je crois qu'en plus la distribution c'est énorme.
Ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup.
Et là on n'a rien à dire sur la distribution parce que ce sont tous de très très bons comédiens.
J'ai fait exprès notamment.
Ils vivent vraiment leur personnage avec tout leur style, leur énergie.
Je crois que j'ai des choix déjà de mise en
sens de la langue, magnifique.
J'ai distingué Michael Pinelli, c'est ce qu'on se disait en sortant. Oui, auditeurs, nous l'avons vu hier soir, c'est un Alceste assez...
Ils sont tous très forts, j'ai trouvé, moi, très...
Ah ouais, mais il y a un truc en plus chez lui, il a une énergie.
Oui, c'est ça, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est très généreux aussi, et c'est vrai que c'est pas le grand brin romantique qu'on voit habituellement.
Ouais,
voilà, c'est vrai que moi, j'avais envie de cette révolte, de cet homme révolté là.
Et voilà. même dans le non-jeu, toujours dans cet acte 5, quand tout le monde parle et tout ça, il finit par se lever en disant « j'ai laissé tout le monde parler ». Je le regardais essuyer tous les différents colibets, puis pas seulement des colibets, enfin, il m'entendre ce qui se disait de tous et chacun, et ça, certainement ça devait le contrarier. Enfin voilà, il y a un truc.
Il y a un jeu très contemporain qu'on pourrait trouver dans un cinéma contemporain avec un texte du 17e, c'est ça qui est intéressant, et ça marche quoi. Et parfois même très physique, dans la gestuelle.
Et
je trouve que ça marche beaucoup. Ça porte le texte, ça le fait revivre et ça le communique très bien au spectateur.
Sur les intentions et voir comment.
Dans les répétitions, c'est ça?
Oui, dans le processus de répétition, sur les intentions, sur pourquoi chacun parle au moment où il parle. Et ça, c'est essentiel pour qu'ensuite eux puissent vraiment se l'approprier dans le corps aussi, que ça soit pas.
Et nous le comprendre, être dans le feu de l'action et de ce qui se passe, et du coup ça marche très bien. Et les pauses aussi, parce que c'est tout en alexandrin, donc parfois la rime c'est un truc qui doit être super difficile. Toute la musicalité de l'alexandrin, on attend la rime, on l'attend, et puis ce qui est intéressant c'est qu'elle est syncopée, elle arrive jamais là où on l'attend, en plus dans les pauses des comédiens.
On essaie de
et elle fait sens toujours, quoi. Et on comprend, on se dit à la fin de la phrase, oui, on comprend, bon. Après, bon, peut-être certaines personnes aujourd'hui, quand on ressort et qu'on écoute le niveau de langage d'aujourd'hui dans les médias ou ailleurs dans la vie, c'est vrai qu'on peut être surpris. Pour nous, maintenant, le Molière devient une langue exotique quasiment.
Complètement, oui. L'alexandrin est exotique.
Et vous arrivez à la faire passer, à la réactualiser. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce spectacle.
Bah, tant mieux. Après, nous, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup travaillé sur les mots. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des vers, on s'est appliqué à révéler certains mots qui sont des endroits de pensée énormes, et que finalement c'était pas tant la musique qu'on mettait en avant, mais les mots qui permettaient cette musique-là.
Voilà. Les mots appuyés par une gestualité assez exubérante parfois. Et puis il faudrait parler de la scénographie et du dispositif scénique, parce que vous êtes dans la salle Jean Villard, donc.
Jean Bouise,
justement.
Jean Villard, c'est mon prof est un troll.
Par Baptiste.
Donc c'est une scène où vous ne faites pas face au côté court, côté jardin, avec une estrade et des acteurs en face de vous, sur lequel vous avez un point de vue plongeant, ou alors le contraire, ils vous regardent ou ils vous toisent. Vous voyez aussi les spectateurs en face de vous, de tous côtés, et la scène est centrale, et il y a des spectateurs de tous les côtés. Et ce dispositif, justement, marche très bien avec ce texte. Ça aurait été choisi par hasard, j'imagine, et ça lui donne une portée très forte, parce que moi, je me suis surpris plein de fois à regarder les gens, si je ne regardais pas que les acteurs.
Moi, pas trop.
Moi, j'aime bien regarder les gens, et là, on regarde les gens de tous les côtés, et le théâtre se vit vraiment au milieu du... On sent une présence.
On voulait vraiment que ça soit
et ça marche, ça. Et puis ça soit à la place des places vides qui ont été ménagées ou pas dans le.
Oui, il y a un petit carré rouge.
Voilà. Donc il s'assoit aussi au milieu du public. C'est très discret, mais je trouve que ça suffit. C'est assez efficace pour impliquer davantage le spectateur. Briser un peu le.
C'est exactement ça. Et puis surtout, Je me disais, on est dans le salon de Célimène et c'est l'antre de la représentation. Et en tant que spectateur, il fallait qu'on vive aussi ce rapport-là à la représentation et à soi aussi en représentation. En plus, chez Molière, les Marquis étaient sur scène. Voilà. Donc c'était intéressant de replonger dans ce rapport-là du regard et des multiples possibilités de regard dans cet espace. Mmh. Comment les scènes deviennent publiques. Et après pour la scénographie, donc il y avait évidemment cette envie d'être en quadrifrontal, comme on dit. Et puis voir comment on était. Enfin, il y a un podium et qu'est ce podium qui est un podium de défilé de mode, un podium aussi de télévision. Donc, voir comment on met en scène. Chacun se met en scène à l'intérieur de ça. Voilà, exactement.
Et les accessoires se réduisent à un bouquet de fleurs, je crois, et une chaise.
Oui, il y a presque rien.
Il y a deux accessoires, il me semble.
Les papiers sont jetés par terre aussi.
Il y a quelques scènes, on ne va pas tout révéler, mais il y a des scènes assez étranges aussi, quand même, un peu féeriques quand même.
Oniriques.
Oui,
oniriques.
Il y a de la machinerie.
Et une musique et un travail sur le son intéressant qui vient vraiment en décalage complet avec la.
Des basses énormes quand c'est.
Des costumes très originaux, bizarres, qui mélangent le polyuréthane et le.
C'est ça,
le tergal avec des culottes qui peuvent évoquer d'anciens temps.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est parti sur du costume d'époque, et en même temps on voulait voir que, enfin, plus étudier dans le costume d'époque le code de représentation aussi. Donc c'est vraiment ça qu'on a travaillé, voir comment chacun il s'habille d'une certaine façon, et il y a une forme d'uniformisation du costume. C'est pour ça qu'on a utilisé les formes de doudounes. En fait,
oui, c'est
des vraies doudounes, c'est des doudounes uniques.
Pour
travailler, mais vraiment la doudoune, voilà, ils en ont tous.
Et collants.
Dans une forme d'uniformisation, en fait, du modèle et qui est dénoncée à la fin par Alceste quand il revient. Enfin voilà.
Ah, oui.
Vous l'avez remarqué, mais
vêtu différemment,
vêtu complètement différemment, oui. Et d'un seul coup, tout ça devient absolument absurde parce que ce n'est qu'un code de représentation. Voilà.
C'est un espace carré. Il se passe beaucoup de choses dans les diagonales, dans l'interpellation entre les comédiens, d'un bout à l'autre, parfois à 30 mètres. Hein. Ah bah, la voix est très, très
j'avoue
puissante.
Que la dernière scène, j'étais presque gêné. Je pensais que Alceste s'adressait à Célimène à nouveau.
Non,
je me disais, mais il parle de son cœur refusé. Enfin bref, non. Il attrapait tout au.
Tout à la diagonale.
Dans la diagonale, exactement. Il attrapait.
Éliante,
il parlait à Éliante qui était donc.
Mais dans l'ensemble, ça marche très bien. Et il tournoie en permanence. On écoute très bien ce qu'il dit.
On a essayé vraiment de faire en sorte que.
Ça bouge beaucoup, c'est très dynamique.
Monde, voilà, c'est ça. Le quadrifrontal implique une grande dynamique de manière générale.
Physique,
donc
sportive.
Voilà. Ouais, c'est sport.
C'est sport, j'imagine.
Mais c'est un rapport comme ça aussi dans les corps et pour le coup, ils sont pas tranquilles. Ils peuvent pas être tranquilles. Enfin, on est tout le temps dans ce rapport-là au regard des autres qui fait qu'on peut pas rester en place et on est obligé de se défendre aussi par le corps, par tout, quoi. Voilà. Donc il y avait vraiment cette volonté-là. Et puis il y a des scènes qu'on a décidé de rendre publiques. C'est-à-dire les deux premiers actes, le public est éclairé et c'est voilà, c'est comme sur une place publique, le rapport au public est très important, le regard public sur soi est très important. On dit pas la même chose quand on se prend une bourrade devant du monde, bah c'est l'enfer, quoi. C'est terrifiant, c'est ce rapport-là à la honte qui fait dire ou faire autre chose, l'humiliation publique. La scène finale, on l'a un peu, j'avais décidé, enfin voilà, de la travailler différemment, c'est-à-dire que normalement les comédiens partent au fur et à mesure.
Ouais, et là ils sont tous là. Hein.
Voilà, là on les a fait rester jusqu'au bout pour que la scène reste publique jusqu'au bout et rester dans cette dimension-là. Et puis voilà, sur le spectacle aussi, comment il y a la scène des portraits qui, cette scène finale est un miroir de la scène des portraits.
Acte 2, c'est ça?
Enfin, ouais.
Moi, c'est tout.
Et c'est très délicat parce que c'est vrai qu'un comédien qui est sur scène, qui en même temps n'a rien à dire, il joue toujours, il est là, il a son visage, et son visage doit continuer à jouer, même s'il n'a pas la parole, même s'il ne parle pas. Et ça doit être très difficile à jouer, et ça marche, parce que moi, je m'amuse aussi à regarder le public, et aussi les comédiens qui n'avaient pas la parole.
C'est essentiel, parce que.
Je les voyais jouer vraiment pleinement leur rôle, quoi.
Mais on a beaucoup travaillé sur l'écoute, parce que c'est aussi dans l'écoute qu'on comprend la scène qui est en train de se jouer.
C'est ça.
Tout le temps. Sur ce que ça provoque, sur l'angoisse elle peut provoquer ou pas, ou voilà.
Il va nous falloir parler un peu des clochards célestes, mais je pense à cela peut-être. Dernière question. Êtes-vous souvent présente dans la salle? C'était le cas hier soir. Louise Vigneault, est-ce que vous aimez bien, une fois que, enfin, comment dire, vous avez assuré la mise en scène, normalement, ce travail étant, enfin, on peut dire peut-être terminé, une fois que les comédiens sont lâchés dans l'arène, normalement, le metteur en scène peut ne plus être présent, enfin, le ou la metteur, metteuse en scène. Vous le faites régulièrement, non? Ou c'était exceptionnel hier ou
Non. Je vais être assez présente.
Oui.
Parce que déjà, je crois qu'ils aiment bien, ils en ont besoin. Après un spectacle.
Vous le dites en plus, je serai là ce soir, c'est ça?
Oh, oui, ils le savent, suis là. Et après, je crois qu'un spectacle bouge beaucoup. Donc il faut arriver aussi. Enfin moi je suis un peu leur regard et je permets que ça tienne.
Vous faites encore des remarques après, enfin oui. Des remarques ou des choses, oui.
Oui, on continue à travailler.
Jusqu'à la dernière.
Voilà. Bah après à partir du 8 février je peux pas travailler à Paris, mais donc je vais être moins là, mais je vais revenir quand même. Et je crois que c'est important aussi de les soutenir là-dedans. Et puis de vérifier que le spectacle tient aussi dans ce qu'il raconte et qu'il se décale pas. Mm-hmm. Parce que voilà, il faut
ça.
Que ça.
On peut se décaler.
Un spectacle peut se décaler, tout à fait.
À cause du jeu de chacun des comédiens qui se décale.
Oui, ça se décale. Puis il y en a un qui décale, voilà. Et puis petit à petit, il y a un propos qui se décale tout petit peu. Et moi, je
c'est déjà
crois
trop.
Que c'est important. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, il faut tenir la ligne de pensée, en fait. Mm-hmm. Après, là, c'était que la quatrième. Et en plus, c'était une reprise hier soir, parce qu'il y en avait une journée de relâche. Donc, c'était quand même très important de pouvoir être avec eux. Et puis, surtout, c'est un quadrifrontal. Comme vous dites, le public est très présent. Et pour nous, on a eu beau répéter, travailler, etc. Avant, il y a un moment où le spectacle naît vraiment. Alors là, encore plus avec le public, puisqu'il fait partie de notre scénographie.
Il était bon, le public.
Alors, il avait bougé pour la quatrième ou pas? Des petites choses avaient bougé? Des déplacements?
Allez, 14h46. écoutons peut-être justement une touche éventuellement plus décalée. Écoutons Bobby Lapointe. Bobby Lapointe avec
on s'en fout, nous on n'a rien vu. Hein,
si quel est le titre? C'est la misanthrope, c'est ça? C'est le Alceste
oui,
ou enfin c'est très amusant. Et puis ensuite auditeurs, on pourra enfin la poser cette question, Gérald. Oui. Qu'allez-vous faire prochainement, Louise? Est-ce qu'au Clochard Céleste il a de belles choses à venir? Oui, je crois. Si on cite des auteurs, Virginie Despentes, Florence Aubenas et puis Alain Corneau, on pourrait dire en quelque sorte. Donc ça fait encore de belles choses. Ce sera plutôt sur les pentes et non plus au Théâtre National Populaire sur la place Lazare Goujon à Villeurbanne. Là, on va rester davantage à Lyon avec ce bon quartier Croix-Rousse, Canu, tout ça. Écoutons Bobby Lapointe et puis continuons. Jusqu'à
combat.
Continuons combat.
Théâtral. Oui,
c'est ça.
Moi, je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom, Alceste. Nous, on l'appelle Zantiope, c'est notre ami Zantiope. Bonjour, la misanthrope. Quand il est à Saint-Tope, il vit comme un ascète. Ils sont jamais là-bas, mais quand il est à Saint, il vit comme à Saint-Tope. Toute la nuit, il sort, il fait le tour des boîtes où l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs à Saint. Il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène, pas là. À la fin, il a tout vu, lui dit ce qu'il pense. N'est pas content, tu sais. Il dit, fuyons ces boîtes de les condenser. Ah, parce que c'est son mot, ça. Parce que lui, il dit que ceux qui dansent dans ces boîtes, ils sont à feu. Et quand il s'arrête de danser, il dit, c'est des boîtes de les condenser. Et voilà, et ça fait rigoler. Oh, 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 là, là. Oh, oh, bon bateau. Mais lui, il est en colère et il dit, agressant des Molières. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode. Ah, il aime pas qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Il aime pas la mode et je ne ai rien tant que les contorsions. Il aime pas le jack de tous vos grands faiseurs de protestations. Il aime pas du tout. Viens, viens, ma Célimène, viens, viens, je t'amène. Allez, viens, va, laisse ces sapajous faire ensemble joujou. Ils dansent jack toute leur flatterie et leur cajolerie. Avec les mains, c'est rien que du chiquet, de la courte biquet. Ah, ça c'est son mot, ça encore. Parce que lui, il passe pour l'amour, pas besoin de faire des manières. Lui, tout de suite, allez, boum, boum. Et voilà, c'est pas compliqué. Mais Célimène, c'est pas ça du tout. Elle veut pas tout de suite, boum, boum, parce que c'est une grande coquette. Et puis d'ailleurs, tu vas voir. Mais notre Célimène dit pas toujours amen, non. Oh non, au contraire, bien souvent, elle dit amen, non. C'est vrai ça, moi j'aime conversation de garçon plus amène, oui. Amène signifie doux, puis je suis pas sans dillon, je rentre pas à minuit. Si tu crois qu'en amour y'a pas besoin de haute œuvre, va-t'en chercher ailleurs qui peut faire ton bonheur. Pour gagner une guerre, il faut faire des manœuvres. Mets du miel sur ton piège pour attaper mon cœur. Et bien voilà. tout ça, c'est de la diatribe. Elle est comme ça, Célimène. Elle aime avoir beaucoup d'amoureux qui font nanana des manières. Oh oui, mais tout ça, c'est bien triste. Et ça donne envie de partir et chercher sur la terre un endroit écarté où des hommes d'honneur, on est dans la liberté. Comme il a dit un copain à moi, seulement voilà, il n'y en a pas. Tout est loué depuis Pâques, alors qu'est-ce que tu veux faire?
C'est Louise Bignot qui assurait ce moment de la playlist, ce n'était plus Gérald. Quoique non, là on alterne, c'est ça, le Sympathy for the Devil d'ailleurs, je souhaitais vous le demander. Vous l'avez écouté en répétition, c'est ça Louise? Oui, c'était...
Exactement.
C'était donc un grand moment pour commencer, c'était très bien. Ensuite, Gérald, c'était Brigitte Fontaine, ça c'était toi qui avais choisi ce titre, parce que ça collait bien à l'esprit, trouvais-tu. Et là, à l'instant, La Misanthrope de Bobby Lapointe, qui un texte très amusant, j'essaierai de le mettre sur le blog.
Bien, je ne connais pas cette
chanson. C'est très rigolo. Si.
Louise, le texte, c'est génial.
Il nous reste encore 10 minutes pour parler peut-être un peu moins, mais on peut encore le faire, de cette pièce qui est donc donnée au TNP, le petit théâtre, c'est donc derrière, sur la place Lazare-Goujon, c'est le grand théâtre, et donc la rue Louis-Becker, je crois, c'est ça, c'est
oui,
la rue
juste derrière.
Juste derrière. C'est une salle qui est belle jauge, hein. Moi j'ai quand même compté plus de 300 personnes, je crois, hein, c'est ça, c'est...
302.
302.
Et c'était plein, non? Enfin, où, c'est...
Oui, quasiment, oui.
Bon, alors c'est très bien si ça...
Pour conclure, avant de parler des clochards célestes, on pourrait peut-être inviter les auditeurs, auditrices, auditeurs à venir... voir ce spectacle, parce qu'il y a le temps en plus, avant le 15 février, parce
alors,
que ça vaut le coup de
les inciter, moi inviter,
ce texte
bien,
dans l'oreille, c'est un texte qui est tellement génial que...
Ah mais allez-y auditeur, allez-y donc, c'est
Et elle
c'est
est tellement
super.
Bien interprétée, et elle a déjà ce grand mérite de nous faire parvenir ce texte frais et jeune, comme s'il avait été écrit peut-être...
Ah non, mais les comédiens
si
sont très bons. Non,
et puis il est en actualité et il donne un
réflexion. Visuellement, c'est un
il remue, plaisir il remue.
C'est très bien.
Donc, ça doit être réussi. Hein.
Clochard Céleste,
après, la jauge, parfait, hein,
la jauge n'est pas du tout pareille.
Clochard Céleste. Tout.
49, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement.
49 places, une grande scène tout de même, oui?
Oui, c'est... oui. Bah, grande scène, parce c'est relatif.
Gérald, je me suis rendu compte, on a plusieurs fois...
Mais elle est très belle, le plateau est très beau.
Je vous coupe un instant, mais je vous laisse continuer, Louise. On a déjà reçu plusieurs spectacles, mais on n'a jamais pu, je crois, les voir.
Si, moi j'y suis allé. L'augmentation de Pérec, c'était au Clochard Céleste.
Colin Rey, c'est ça, c'était lui? Non, c'était pas Colin Rey. C'était.
Si, si.
Attention.
C'était il y a 2-3 ans.
On parle 2013 ou effectivement 2014.
Bah oui, 2-3 ans. On a l'augmentation.
Reçu, on en a reçu d'autres.
Et on a eu d'autres. Si, si.
Mais moi, je.
Les percussionnistes aussi. Bah, c'était avec eux, l'augmentation revisitée avec les percussionnistes de l'Opéra de Lyon.
Il y avait Tactus, on a reçu.
C'est ça, voilà,
l'ensemble
Tactus.
Quentin Dubois est venu.
Avec l'augmentation de Pérec.
Il y en a plusieurs.
Il y a eu plusieurs spectacles quand même, dont on a parlé.
Et donc, c'est pas la même chose. Être directrice de ce théâtre depuis, donc, allez, pas tout à fait un an, disons, plus ou moins, c'est...
Ah oui, c'est une autre aventure.
C'est une autre aventure.
Ça n'a vraiment rien à voir.
Non, enfin c'est vrai que non, ça n'a pas rien à voir. On peut pas dire ça. Ça reste et puis surtout que je crois que moi je m'occupe vraiment de la direction artistique du lieu, évidemment de la direction symbolique parce que je travaille avec les équipes, etc. Mais surtout de la direction artistique et ça c'est une forme de mise en scène aussi d'un lieu et d'un espace et d'une volonté d'amener le théâtre quelque part. Après je crois que c'était très important pour moi parce que ça ancre la pratique. C'est-à-dire que, au-delà de faire de la mise en scène et d'aller voir le public, là, d'un seul coup, on est au cœur de ce que c'est qu'un lieu, comment faire venir les gens au théâtre, qu'est-ce qu'on raconte sur un plateau de théâtre, qu'est-ce qu'on veut raconter à des gens, comment faire voir plein de propositions différentes, mais qui ont toutes leur place sur un plateau. Enfin voilà, c'était vraiment ça qui est absolument passionnant.
Et un vrai lieu qui a une histoire un peu presque comme le TNP, 40 ans je crois, le TNP c'est un peu
oui,
plus.
Oui c'est ça, 40 ans, oui le TNP un peu plus, oui.
Bah, le TNP, l'arrivée à Lyon, c'est les années 70, non 70
bah,
les
premières mises en scène. Il est devenu TNP en 72, avant c'était le Théâtre de la Cité.
Donc 45-46
voilà,
ans.
C'est, ouais, et c'est ça.
Et Clochard Céleste, 60,
40 ans.
77-18.
Oui c'est ça, et Elisabeth Saint-Blanc, ça faisait 31 ans qu'elle le dirigeait.
Yves Barrault auparavant, c'est ça?
Voilà.
Barrose,
oui, je crois.
Bien, ouais.
J'ai une question un peu provocatrice. Lequel des deux est le plus populaire finalement?
Ah. Les tarifs sont quand même vraiment...
ça ne peut pas être la même chose. Enfin, et puis je ne sais même pas si c'est par le tarif qu'on parle de...
Non, mais c'est toucher le peuple. Vous touchez peut-être plus facilement. Non,
le peuple de la Croix-Rouge.
Je crois que en vrai, c'est difficile.
Oui.
Je crois que sur ces scènes découvertes, après, là, il y a la chargée de communication des relations publiques est vraiment, fait un très gros travail formidable, Martha.
Martha, ah, merci beaucoup, Martha.
Voilà.
C'est par son biais que nous avons pu avoir Louise, c'est très bien.
Et voilà, pour justement intéresser les gens, les faire venir et tout ça, mais c'est très difficile de mobiliser le public de quartier. Et de renouveler le public de quartier, puisque ce sont des petits théâtres de scènes découvertes. Donc évidemment, c'est un public plus de connaisseurs ou de professionnels qui viennent découvrir des nouveaux gens, etc. Et voilà, l'enjeu énorme pour moi, c'est, et ce que je veux, c'est que ça soit un théâtre aussi pour les pentes de la Croix-Rousse, dont on puisse être fier dans le quartier, et qui soit aussi un théâtre de quartier. On est vraiment en train de travailler là-dessus. Il y a une permanence à partir de 16h. Donc le théâtre est ouvert, on peut venir y boire un thé, c'est pas encore connu, mais c'est possible. Bah maintenant, en tout cas,
dites-le, nous le mettrons sur le blog.
C'est tout à fait possible. Il y a aussi un tarif.
Un lieu convivial. Ouais.
Le tarif est réduit pour les habitants, les résidents du premier arrondissement.
Il faut présenter une adresse, c'est ça?
Justificatif d'adresse. Voilà, mais c'est important de dire si on vient et qu'on est du premier arrondissement, on a le tarif réduit. On a mis en place une carte qui permet d'avoir des tarifs encore plus réduits. Ouais, c'est une carte à 15€. Mais après, ça permet d'avoir des tarifs très très réduits et dès la deuxième fois, c'est réduit.
Pour fidéliser
Et pour fidéliser un public de proximité, pour aussi, parce que je crois que c'est très important, même quand on est une jeune compagnie, de rencontrer un public qui ne soit pas les copains. En fait, un vrai public.
C'est ça.
Un public qui vienne nous voir, qui discute avec nous, qui nous donne pas du métier, qui nous donne un vrai regard sur ce qu'on propose, puisque je crois que quand même, ce qu'on cherche tous, c'est parler à le plus grand nombre de gens.
Dépend. Après, il y a les réseaux sociaux pour ça.
Oui, aussi.
Et alors, on peut parler à des millions de gens, mais on n'a rien à dire. C'est un peu le problème.
Est-ce qu'on parlait du spectacle, du spectaculaire. Alors, qu'en est-il de cette programmation? Est-ce que. Hop, ta place est spectaculaire, un peu de Guy Debord. Oui, parce que Guy Debord, vous l'abordiez pour cette note d'intention du misanthrope
de manière que vous mettez en scène.
Vous mettez en scène aussi chez vous, non, au Clocher Céleste?
Oui, le Quai d'Ouistreham de Florence Aubenas.
Florence Aubenas.
Qui est un livre de Florence. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est absolument génial, ce livre.
C'est terrible.
Oui, elle est journaliste. Elle devait écrire sur la crise.
Libération passée au monde.
Voilà, c'est ça. Et elle devait écrire sur la crise et elle n'arrivait pas à écrire sur la crise, donc elle est partie à Caen. Elle a caché son identité et elle s'est inscrite à Pôle emploi pour être femme de ménage.
Voilà.
Et c'est toute son aventure.
Ça a fait du bruit à une époque, ça.
Et c'est seulement, il y a cette volonté d'adaptation qui est toujours intéressante, mais en plus, ça se passe pas au Théâtre des Clochards Célestes, c'est hors les murs. Donc il y a une balade dans les pentes pour le prologue et ensuite c'est à l'Ibiza qui est en face et puis au restaurant Les Tables Claudiennes.
Alors c'est pas tout de suite, hein, c'est quand la météo sera un peu meilleure, c'est ça?
Aujourd'hui il fait très beau, oui. Puis après, il y a la 11e, collectif La 11e avec une mise en scène de Sven Narbonne. Qui là est sur la nuit.
On l'a reçu, Sven Narbonne, je crois. Mais
il avait monté huis clos à l'espace 44.
C'était encore avant. Moi, j'ai souvenir peut-être.
Oui, il y a longtemps.
Nicéphore Niepce, je crois. Il y avait quelque chose sur lui, il me semble. On connaît pas les émissions spectaculaires. Vivement qu'on arrive à la 200e et que tu fasses un petit Gérald. Donc Sven Narbonne, vous dites, pour un spectacle.
Voilà, ça s'appelle Tranquilliseur. Enfin, un texte, une commande passée à un auteur contemporain, Adrien Cornadia, sur, c'est marrant, ça fait un peu éco-misanthrope, mais sur la représentation et sur la manière dont finalement le milieu de la nuit sert de catalyseur à faire ressortir tout ce qu'on cache tout le temps à tout le monde. Et puis, les non-alignés. Qui vont présenter deux spectacles, un sur les super-héros et justement un sur Marie Tudor qui s'appelle Tudor toute seule et qui est vraiment en fait une actrice qui va jouer Marie Tudor toute seule. Voilà.
Et pour ce qui est de cet ultime spectacle pour la fin de saison 2017-2018 des Clochards Célestes, est-ce vous qui mettez en scène? Non, pas du tout.
C'est Subutex.
Ah oui, vous l'avez dit.
Voilà, et c'est
une Belge, je crois, c'est ça.
Voilà, Charlotte Villalonga qui est une actrice avec qui je travaille beaucoup, moi. Avec qui j'ai travaillé sur Calderon, sur Fedo. Elle joue Suzanne dans Fedo. Je travaille avec elle l'année prochaine. Et surtout, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle est aussi chorégraphe. Et donc, elle avait envie d'explorer le mélange entre la chorégraphie et le théâtre. Et ça, à travers une adaptation de Subutex.
Et alors, quelles sont les dates de ce spectacle?
C'est en juillet.
C'est du 10, je crois, au 18, il me semble.
Au 20, oui, un truc
donc
comme ça.
Donc, c'est en plein mois de juillet.
Plein mois de juillet.
Le TNP a fermé. Et oui, messieurs, mesdames, messieurs. Oui, le TNP aura fermé à ce moment-là. Opéra de Lyon aussi, il y a peut-être un spectacle encore jusqu'au 5 juillet, 5 ou 10, mais ensuite c'est rideau.
Tout le monde part à
Auditorium, rideau, voilà, c'est ça. Même je crois Carré 30, Espace 44, tout ça c'est rideau. Eh ben non.
Ouais, on a décidé de continuer.
Sur les pentes.
Bon,
et surtout, ça va être assez festif parce que c'est vraiment, comme je disais, chorégraphique et elle travaille là-dessus avec un DJ qui sera dans la salle, voilà. Et on veut. Oui, je. je crois que tout le monde ne part pas en vacances et tout le monde ne va pas à Avignon.
Oh mon
Dieu,
on
voilà.
est en train de totalement dépasser. Pascal est là, mais il n'a pas encore commencé son émission en plus des Canus. Elle va commencer dans quelques instants. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Juliette Gréco pour Je suis comme je suis, c'est ça
c'est ce c'est qu'on ça, me suggérait. C'est ça, exactement, comme Célimène.
Voilà. on déposera toutes les informations sur la programmation du théâtre
ben oui,
des cloches en
céleste
sur notre blog.
Attention, j'allais poser cette question quand même et il me semble que Pascal nous laisserait certainement le temps. C'est... Comment trouver des informations sur les clochards célestes
sur le site des Théâtres des Clochards Célestes. Et vous pouvez évidemment y aller.
Je crois que
51 rue des Tables Claudiennes.
Boire un petit café, boire une bière artisanale, boucher.
Discuter avec Charlotte Touilleux qui travaille aussi à Radio Canu et qui est formidable et qui vous accueillera.
Comme par hasard.
Voilà.
Louise Vigneault, merci beaucoup. 15h03. Oh là là, qu'est-ce qu'on a dépassé. Mais Pascal ne se présentait pas. Donc, auditeur, restez à l'écoute.
Merci beaucoup.
Louise de Canu, d'ici une ou deux minutes.
Merci de
Méga Combi tout à l'heure à 18h. Écoutez Méga Combi avec Olivier notamment. Une excellente émission. Canu Info à 19h et puis voilà tout un tas de choses. Merci Gérald, merci Louise. Semaine prochaine, c'est pas encore prévu, on sait pas, surprise. Pour terminer, surprise. Pas générique, c'est Célimène. C'est votre titre, Louise. Je suis comme je suis, Juliette Gréco. Merci encore. Ciao
merci.
Tout le monde.
Merci.
Au revoir.
Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Et c'est ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça.